pouvoir avoir avec les enfants, par exemple.
C'est une question qui est toujours très difficile, on va dire, de répondre avec certitude si on ne fait pas preuve d'une certaine humilité et si on ne fait pas preuve aussi d'un certain réalisme. Alors je dis humilité parce que quand on est dans la génétique, on pense toujours que la génétique, ça va être le soulagement de tout. On pense que le fait de trouver le gène responsable va nous aider le plus souvent à soigner ce gène malade. Et quand on voit, et c'est là où je dis qu'il faut rester humble, quand on voit l'effort financier, l'effort scientifique qu'il y a derrière le Téléthon, ça fait plus de 30 ans que l'AFM a été fondée en France, et la maladie de Duchenne n'est toujours pas soignée dans sa réalité. On a des projets de traitement avec du virus, des médicaments, donc un gène qui est introduit dans un virus pour soulager un bras, mais ce sont encore toujours des protocoles d'études. Alors, pour la thérapie génique de l'œil, on peut se dire que l'œil est plus accessible qu'un muscle, et c'est là-dessus que tout se base. Donc il faut imaginer que quand l'enfant ou le jeune adulte a une myopathie, c'est l'ensemble des muscles du bras, des membres inférieurs qui sont défectueux, et donc il est très difficile de se dire, tiens, dans quel muscle essentiel je vais aller mettre le médicament, puisqu'on sait qu'on n'a pas un traitement pour soigner tous les muscles en même temps. Ici, l'avantage de l'œil, c'est qu'on peut se dire, tiens, mais il suffit d'une seule injection pour qu'on puisse réparer. Et c'est sur ce principe-là que tout repose. Et il repose aussi sur un autre principe essentiel, c'est qu'il est plus facile d'apporter ce qui manque que de soigner ce qui fonctionne mal. Alors là, je m'explique, c'est la base de la génétique. Vous avez un des spécialistes qui est venu et il a essayé de vous expliquer ce que c'était que le génome et ce que c'était qu'une anomalie génétique. Alors, le plus simple, c'est vraiment d'imaginer qu'on reçoit toujours une information en double. On a cette chance, c'est ainsi qu'est fait le corps humain. On reçoit l'information à la fois de son papa, à la fois de sa maman. Lorsque on a cette information en double et qu'elle est bien fabriquée, bien formée, on a une information qui va donner naissance à une protéine. Le corps humain, c'est vraiment un assemblage. D'ailleurs, à l'université, à l'école, on apprend ça aux enfants, même déjà parfois en primaire. On est composé de systèmes. Vous avez le système digestif, le système urinaire. Puis quand vous visitez ces systèmes à l'intérieur, on voit que ce sont des organes. Et quand on détaille l'organe au microscope, on voit qu'il est composé de tissus. Je suis obligée de faire ce petit rappel pour aller au plus petit élément du vivant, qu'est la cellule. La cellule, c'est le vivant. Et la cellule, c'est une fabrique, c'est une usine. Et elle fabrique en permanence des protéines qui permettent la vie à cette cellule. Mais pour fabriquer ces protéines, il lui faut un mode d'emploi. Et le mode d'emploi, c'est ça la génétique, c'est ça la recette, c'est de la chimie qui prend la forme de l'ADN. Enfin, c'est vraiment l'ADN, c'est vraiment la forme d'une colle. Hein. C'est quelque chose de gluant, de transparent, qui siège à l'intérieur de ce noyau que l'on trouve dans les cellules. Et alors, vous connaissez tous les chromosomes, et bien c'est la même chose. C'est cet ADN qui prend la forme de petits bâtonnets quand la cellule va se diviser en deux. Alors, on sait qu'on a cet ADN, on sait qu'on a cette recette, ce mode d'emploi pour faire des protéines, et suivant qu'on a des erreurs génétiques, on va avoir, et c'est là l'importance du test, et que ça, c'est de voir si on a une anomalie qui va entraîner l'absence complète de la protéine, ou si on a une anomalie génétique, donc dans la recette, dans le mode d'emploi, qui va entraîner une modification de la protéine. Alors, c'est jouer sur les mots, mais c'est essentiel. C'est la seule chose qu'apporte le test génétique quand il apporte une information. C'est celui-là. C'est est-ce que nous sommes en présence d'une protéine anormale, par la qualité, par le fonctionnement, ou est-ce que nous sommes en présence d'une protéine absente? On dit à ce moment-là que c'est un défaut quantitatif. Et quand elle est anormale, on dirait que c'est un défaut qualitatif. Si c'est une protéine anormale, un défaut qualitatif, aujourd'hui, la science est assez démunie pour utiliser la génétique comme traitement. On ne sait pas aller réparer une protéine qui dysfonctionne dans son mécanisme. On peut la court-circuiter, et ça, c'est ce qu'on essaye de faire dans certaines maladies. Je réexpliquerai ça après. Mais on peut difficilement corriger l'anomalie et aller apporter une information que la protéine fonctionne normalement. Quand la protéine n'est pas du tout présente, quand c'est un défaut quantitatif, et c'est ça les essais que vous avez montré le docteur Bennett, on sait qu'il manque quelque chose. Et alors, là, on a la possibilité de prendre un vecteur. Alors le vecteur pour l'instant c'est un virus. Ce vecteur c'est un virus qui est inactif, donc il faut bien se rendre compte qu'il ne contamine pas, il n'a pas la possibilité d'infecter, mais dans lequel on a remplacé une part de son bagage génétique par le gène manquant. Donc on a mis dans ce vecteur un gène qu'on considère comme médicament. Alors à ce moment-là, il faut fabriquer le vecteur en grande quantité. Ne sachant pas, moi j'avais préparé quelques diapos, mais sont surtout, si vous êtes intéressé par la fabrication de ces vecteurs, il y a un site quand même qui vaut la peine d'être visité pour avoir l'aspect un peu pratique. C'est possible d'avoir quelques explications et on peut faire des visites aussi à Evry, parce que moi j'ai été avec une association. C'est le site du Généton. Et là, il y a moyen d'aller visiter. Donc le Généton, c'est l'outil le plus performant en France dans ce domaine-là, qui est financé par l'AFM. Et donc, coexistent au Généton différents laboratoires. Des laboratoires de recherche, des laboratoires de thérapie, et ils ont même fait normer comme étant maintenant une petite industrie pharmaceutique. Et cette petite industrie pharmaceutique fait du virus. Ils ne font que des virus. Et ils font des virus médicaments pour traiter un membre dans la maladie du Duchenne et également pour Zurich principalement pour faire du virus dans la thérapie génique ophtalmologique, donc des rétinites sévères de l'enfant. Ils travaillent surtout avec Zurich. Maintenant, je ne sais pas quels sont les liens avec le professeur Barthelois, parce que comme lui, il travaille avec les mêmes. Mais ça vaut la peine parce que c'est vraiment en Europe le seul endroit industriel qui fait du virus. Ils ont des cuves, on peut visiter, en tout cas on a droit à voir un film. Nous, quand c'était pas encore accrédité, on a vu le film. Et rien que ça, c'est déjà très intéressant de voir la faisabilité. Maintenant, ce sont des essais qui sont quand même lourds et qui sont sous contrôle médical. Ça veut dire que nous sommes encore et toujours au stade d'essai thérapeutique. Alors, je ne sais pas si un de vous a la notion de ce que c'est qu'un essai thérapeutique. Une étude, mais non. Vous avez... C'est vrai que dans un essai thérapeutique, ça a des critères très stricts. C'est-à-dire que on a introduit une demande dans le cadre d'un projet, plus souvent, avec un passage devant une commission d'éthique, avec un consentement, avec aussi souvent un document explicatif pour les patients, et où on leur explique qu'il y a un temps zéro, qu'il y a une surveillance, et qu'à un moment donné, éventuellement, on arrête l'étude parce que les résultats ne sont pas ceux qu'on attend. On explique aussi parfois qu'il y a des essais avec un groupe placebo, et donc ça veut dire que certains auront accès aux médicaments et d'autres n'auront pas accès. C'est beaucoup dans les maladies, on va dire, chroniques. On connaît ça dans le cancer, mais maintenant, ça va aussi arriver dans beaucoup de maladies chroniques où on se dit que peut-être on va pouvoir ralentir l'évolution. Et ça arrive aussi dans certaines maladies génétiques, justement celles où il y a un défaut qualitatif. Puisqu'on peut imaginer à ce moment-là avoir un médicament qui va simplement ralentir la progression de la maladie. Et donc on fait des groupes contrôles et on voit comment évolue l'effet de ce traitement. Et ça, dans beaucoup de maladies orphelines, vous allez voir, souvent, si on voit sur Orphanet, si on voit sur des serveurs comme ça, on voit, bah tiens, un appel pour une étude clinique, pour un médicament. Et donc, c'est vrai que les essais thérapeutiques sont quand même très lourds. Ça veut dire que Madame Bennett avait montré ça dans son schéma. C'est plusieurs examens, avant, après, c'est faire des tests. Ça montre que nous n'avons pas encore toutes les informations pour vous dire vers quoi on va et quel est le résultat attendu de ce traitement. Donc si je reviens à la question de M. Minet, est-ce que c'est possible que par thérapie génique, je puisse récupérer un voire deux dixièmes? Il y a encore plusieurs inconnus qui ne permettent pas de répondre avec certitude, même si on connaissait le gène, même si on avait éventuellement accès à un vecteur, nous n'avons pas encore la certitude que et le vecteur avec le gène manquant aura un effet qui sera celui qu'on attend. Non, on met tout pour que ça arrive. Hein. C'est pas parce que je mets des prudences que ça ne se fait pas, mais c'est vrai qu'il y a des inconnus qui ne permettent pas de répondre avec certitude oui ou non.
Le docteur Bennett a donné des exemples où le malvoyant refusait de vivre seul, un autre a jeté sa canne.
Oui, je sais, j'ai vu ça. Oui. C'est vrai que c'est
vous
vrai.
Gardez espoir quand même.
C'est pour ça que je dis, je ne peux pas dire ni oui,
oui.
Ni non, sûrement pas. On fait tout pour. Maintenant, ça dépend de comment on va réagir l'œil aussi au traitement, hein, et à la. Je veux dire, c'est vrai que ça paraît être une très belle piste. Maintenant, ce que on n'a pas suffisamment, c'est de recul pour savoir à 6 mois, à 1 an, s'ils sont toujours aussi contents, à 2 ans, ça on ne sait pas. Et on n'a pas suffisamment encore d'informations, je pense, pour voir quel est le vécu de plusieurs dans la même situation. Si on prend, je sais pas moi, une dizaine de personnes avec un RP65 qui ont tous eu le traitement, est-ce qu'ils ont tous eu le même effet? Est-ce qu'ils auront la même réussite? Est-ce que certains auront récupéré 0,5, d'autres auront récupéré 20 sur 200 Vous voyez, il y a des inconnus qu'on ne peut pas, honnêtement, il faut rester encore un peu prudent, je pense. Moi, personnellement. Mais ça, je ne m'engage que moi. Mais on n'a pas suffisamment... Je n'ai pas vu ni entendu, et Madame Messac qui était là aussi, par exemple, si vous cliquez, prenons bêtement l'exemple, cliquez prothèse, Argus. Et là, vous avez des interviews sur le net. Hein. On entend des gens qui ont la prothèse, on voit, ils sont contents, ils vous disent ça et ça. Ça, j'en ai vu. Mais vous mettez thérapie génique ou NAVOP, j'ai pas vu personne donner son expérience. C'est que ça qui me gêne encore, par prudence.
C'est encore trop récent.
C'est trop récent. C'est trop récent. Et c'est trop individuel. Il faut rester dans une démarche plus globale. Maintenant, si on a accès à ce traitement, c'est formidable. Et comme je dis, il y a des atouts pour que ça fonctionne. L'œil, faut-il injecter les deux yeux? Par exemple, c'est une question qui est débattue. À quel moment? Il faut faire des études. Est-ce qu'il faut refaire une injection? Sûrement pas. Mais il y a des questions auxquelles, aujourd'hui, même si on a et la possibilité technique de mettre un vecteur, de l'ADN dans un morceau de virus, et même s'il y a, je dis, à l'AFM, ils font des centaines de litres de virus tous les jours. Hein. Donc, c'est une technologie dans laquelle il y a énormément d'investissements. Donc, c'est évident qu'il y aura, dans les 5 ans, probablement beaucoup plus d'essais et beaucoup plus de résultats. Et ça, c'est ce qu'elle a bien montré, Madame Bennett. Elle a montré tous les sites sur sa carte. Je crois que dans 3 ou 4 ans, on pourra répondre avec plus de précision que ce qu'on fait ce soir.
Oui, si je peux me permettre, est-ce que le corps médical ou la médiatisation n'a pas un peu tendance à embellir les choses et à embellir la réalité? Et aussi, est-ce que finalement, parce qu'on ne sait pas du tout, peut-être sur des enfants ça fonctionne bien, mais est-ce qu'il y a eu déjà des essais sur des personnes plus âgées où le cerveau est déjà bien en place, on va dire? Parce que peut-être que le cerveau ne va pas retraiter l'image comme il le faudrait.
Oui, ce sont des inconnus auxquels moi j'ai du mal à répondre. Ce n'est pas ma place d'ailleurs. Mais vous soulevez des questions qui méritent d'être prudents. Et c'est pour ça que je dis, même si on prend des enfants, même si on en prend une dizaine qui ont le même problème de santé, déjà ça, on n'a déjà pas ce recul-là pour savoir comment ça fonctionne. Est-ce que ça donne... Parce qu'ils en ont testé plusieurs, tous n'ont pas eu le même résultat, hein. N'ont pas eu le même succès. Donc, qu'est-ce qui justifie le succès? Est-ce que c'est la quantité de virus? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est le bagage génétique de la personne? Est-ce que c'est la disponibilité, comme vous dites, la faculté d'avoir déjà vu? Tout ça sont des questions auxquelles, théoriquement, on devrait pouvoir répondre, mais moi, je ne sais pas ce soir. Mais c'est par contre, sur les 5 ou 6 qui ont été étudiés dans le set, ils n'avaient pas tous la même réponse, ça c'est certain. Et le pourquoi, je ne sais pas.
Excusez-moi, nous n'étions pas là le 24, mais par rapport à ce que monsieur disait qu'il avait vu donc des personnes qui ont lâché leur carne et des choses pareilles, ouais. Ce sont des personnones qui faisaient partie d'un groupe placebo
celui-là on doit avoir vraiment un virus.
Ah oui.
Ça on peut croire quand même. Ça on peut croire. peut croire, on peut y croire. Maintenant, c'est, vous mettez un virus, vous mettez... D'abord, il faut fabriquer du virus. Vous faites du virus en grande quantité. Mais ça, c'est encore facile. Puis la deuxième étape, là où ça commence vraiment, c'est quand vous allez faire le transfert. Donc vous allez mettre le morceau d'ADN dans le vecteur. Ça, c'est déjà une étape limitante. Mais techniquement, ça commence à fonctionner. Et ensuite, il faut être sûr que ce vecteur qui a été transformé, qui comporte l'ADN, va pousser de nouveau en grande quantité. Puis vous refaites des cultures. Et au total, il faut compter 2 plus 2, 4, 5 semaines. Donc, vous voyez, techniquement, nous ne sommes pas dans des délais monstrueux. Alors, qu'est-ce qui est limitant? Ça va être l'accès de ce virus dit transformé ou médicament. Comment va-t-on le donner? En quelle quantité va-t-on le donner? Où va-t-on le donner? Et puis, la première étape, c'est où on met le morceau d'ADN dans le vecteur. Est-ce qu'on l'a bien mis? Est-ce qu'il est bien fonctionnel? Est-ce qu'il est entier? Est-ce qu'il va marcher? Parce que si vous mettez le morceau d'ADN dans sa globalité et que le virus est bien stable, c'est bien multiplié, c'est bien celui-là, il a toujours le bon morceau d'ADN, et que c'est cet ADN en grande quantité que vous allez injecter dans l'œil, on a plus de chances que s'il y a eu un problème technique dans toute la fabrication du virus. Et ça aussi, les lots ne sont pas toujours identiques. Hein. C'est ça qui a pris beaucoup de temps à l'AFM, et pendant au moins plusieurs années, ils ont travaillé à ce que toutes les constructions soient identiques. Donc déjà ça a l'air simple, mais il fallait qu'il y ait des critères de qualité pour que à chaque étape, ils aient des normes et que chaque étape normée soit validée pour qu'on puisse passer à l'étape d'après. Et eux, ils ont 5 étapes qui permettent de faire en sorte que le virus qui sort chez eux, c'est comme un médicament. Il a les mêmes normes que dans l'industrie pharmaceutique. Mais en Europe, c'est le seul endroit. Non, je vous dis, s'ils font ça, s'ils investissent autant d'argent, je partage l'optimisme de M. Minet. Hein. Je dis simplement, il faut un peu de temps pour que ce soit, une fois qu'on sait que ça sera bien fabriqué, de qualité, avec toutes les normes, eh bien, peut-être qu'en effet, bientôt, les choses vont bouger beaucoup plus vite. Mais rien que cette étape-là de fabrication, on n'était pas dans un médicament classique, hein. Ni dans une transfusion, ni dans un produit vivant habituel. Donc c'est un produit vivant, mais qui est quand même très spécifique.
C'est vraiment solidaire, parce que ça, c'est un apport quantitatif, c'est bien ça?
Oui. Ça, c'est quand il y a vraiment, qu'on pense qu'il y a un défaut avec une absence complète de protéines.
La plupart des maladies de l'hérédité médicamenteuse, ce n'est pas ce cas-là.
On n'a pas suffisamment de recul, là aussi, pour dire quelle est la cause génétique. Parce que là, j'avais aussi préparé ça. Parce que donc, la génétique de l'œil est complexe. Et on a eu un espoir il y a 2 ans ou 3 ans. Qu'avec les nouvelles techniques de séquençage, où on pouvait analyser en même temps 50, voire 60, voire un peu plus gènes, on pouvait comprendre toutes les rétinites pigmentaires. Le problème que l'on rencontre dans les rétinites pigmentaires est celui que tous, et on a du mal à imaginer un pourcentage, mais c'est sûrement plus de 10% de la population est porteur d'au moins une, voire plusieurs erreurs dans les gènes des rétinites pigmentaires. En gros, chez une centaine, donc ils avaient testé par exemple 30 patients dont ils avaient la certitude que c'était une rétinite pigmentaire avec la mutation génétique identifiée, et dans ce groupe-là, ils trouvent plus de 1000 erreurs génétiques sur l'ensemble des 60 gènes. Donc, ça montre bien que le tableau clinique est là, mais qu'il y a derrière beaucoup de facteurs génétiques, que trouver la vraie cause est parfois un peu difficile, sauf si on tombe sur deux anomalies qui donnent un défaut quantitatif. Là, on est sûr. Et donc, quand ils sont partis, c'est les Hollandais qui sont les plus en avance dans ce domaine-là, ils se sont dit, bah, ok, nous, on avait 30 patients, on a développé ce kit, et on a retrouvé la cause certaine dans 85%, c'est pas mal, envoyez-nous nos cas, des cas. Et là, ils ont étudié à peu près une centaine de patients, et sur ces 100 patients, ils ont pu faire un rapport que pour 36. Donc, pour tous les autres cas, c'est qu'ils n'étaient pas du tout, ils ne savaient pas ce qu'était la cause. Et ils ont dit, dans 36, qu'ils pensaient avoir trouvé l'origine. Et comme par hasard, c'était toujours les mêmes gènes. L'UCHRT2 et le gène ROS. Et sur les 36 patients, ils avaient 20 ou 22 avec l'UCHRIN ou la PRO. Et depuis, il y a des gens qui disent que ce papier ne tient pas la route, que c'est des polymorphes, des anomalies qu'on a trouvées chez d'autres personnes. C'était peut-être pas ça la cause. Donc, trouver l'origine exacte du déficit n'était pas l'étape la plus simple. Donc, pour répondre à la question combien sont des défauts quantitatifs, on peut imaginer que tous ceux qui ont une diminution très brutale de la vue dans les premières années, voire avant l'âge de 25 ans, 30 ans, ont peut-être un défaut quantitatif. Et tous ceux qui ont une évolution plus lente, parfois familiale, ont un défaut qualitatif. Mais c'est...
Ça n'est pas certain
non
plus.
Non, c'est du bon sens. C'est pas scientifique.
Parce que vous avez expliqué comment on pouvait éventuellement remplacer un gène qui est quantitativement manquant.
Alors quand il y a un défaut.
Que c'est qualitativement pas manquant, mais déficient. La thérapie génique, qu'est-ce que vous proposez ? Il y a quelque chose déjà ou...
Quand il y a un.
Parce qu'il passait un peu ce qu'on parle, c'est tant mieux pour ceux qui sont atteints d'un bon succès. J'ai envie pour eux que ça puisse progresser. Ce qui me fascine un peu, c'est qu'on vient de jouer avec GRP 65.
Oui, c'est ce que.
Quand, on se focalise un peu trop là-dessus. Tant mieux pour ceux qui ça concerne directement, pour ceux qui ça ne concerne pas. Qu'est-ce qu'il y a comme. Est-ce que les techniques mises au point dans le cas de GRP 65 sont transplantables, sont réutilisables par ailleurs, enfin, on ne sait pas quoi trop dire.
Non, c'est ça, c'est pour ça que on attend. Je pense que l'investissement de l'AFM montre que c'est quelque chose qui est solide. Maintenant, l'AFM, par rapport aux millions et millions d'euros qu'elle a reçus, elle est obligée de défendre aussi. Mmh. Elle a toujours défendu que le virus était un médicament. Donc, c'est l'aboutissement de sa culture aussi. C'est une société qui a été fondée que pour ça. Donc, c'est normal d'aller au terme de son contrat.
J'espère qu'elle ne se trompe pas.
Ben oui, mais ses essais sont avec Zurich. En tout cas, quand moi j'avais discuté il y a l'année passée, j'ai arrêté. Donc, eux, ils travaillent surtout avec Zurich. Donc, là, on peut imaginer quand même que ce sont des autres gènes, que ça va sortir. Maintenant, dans les médicaments, une fois qu'on a compris les mécanismes pour certaines formes, là, il y a des choses. Alors, moi, je suis parfois confrontée à un autre diagnostic qui est celui d'une rétinite pigmentaire qui est associée à d'autres maladies. Et parce que ça, c'est vrai que les généticiens, c'est surtout ces cas-là qui sont. Parce que la rétinite, ça peut parfois être qu'un seul symptôme d'un défaut plus global. Et dans ces formes-là, parfois, on a déjà des médicaments, mais pas pour l'atteinte oculaire. pour les autres maladies qui vont avec.
Vous avez des exemples précis?
Alors, des exemples précis de maladies associées, oui. Alors, le plus courant, c'est sûrement... on va dire, ce sont tout ce qui tourne aux maladies du cils primaire. Du cils primaire, ce qu'on appelle les cilliopathies. Alors, il faut imaginer, je vous ai dit brièvement, système, organes, tissus, cellules. Cellule, c'est l'élément de base du vivant. Et une cellule, quand elle est très intelligente, elle est dite différenciée, et la plus maligne, entre guillemets, c'est la cellule à quatre côtés. C'est assez formidable quand on réfléchit, une cellule qui sait avoir quatre faces. C'est avoir une face qu'on dit basolatérale, une face contrainte sur les côtés, et puis vous avez la face apicale. Maintenant, une cellule, pour se mettre sur ses basolatérales, contralatérales, tout ça, tous ses côtés, elle a besoin de repères. Elle se met dans la trois dimensions. Et le plus malin, bien entendu, c'était d'essayer d'avoir un senseur pour savoir où était, par exemple, la lumière, l'espace, la cavité. Et c'est très très tôt, hein, puisque c'est déjà ça qui va orienter la distribution du cœur à gauche, du foie à droite, des membres. Donc il faut très très tôt, dans les tout premiers stades de l'embryon, déjà qu'il y ait un senseur pour essayer d'orienter dans l'espace. Et ce senseur, c'est ce qu'on appelle un cils. Et c'est un élément qui est donc à la face supérieure de la cellule et qu'on retrouve dans beaucoup d'organes. Qu'on retrouve dans le rein, qu'on retrouve dans la rétine, qu'on retrouve aussi au niveau du cerveau, qu'on retrouve sous une autre forme mais présente au niveau des bronches, qu'on retrouve au niveau des sinus, qu'on retrouve très aisément quelque part, c'est un petit peu ça, sur un spermatozoïde. Et donc vous voyez ces petits éléments qui sont à la fois mobiles et qui servent de senseur. Si on voit le rôle qu'ils font par exemple dans une cellule rénale, donc on ne les trouve qu'à un endroit bien précis du rein, et il est là simplement pour mesurer ce qui se passe dans l'urine, pour voir si l'urine est concentrée, pas assez concentrée. Si on a besoin de modifier deux, trois petites choses, on va dire, dans l'élimination au niveau de l'urine. Et donc, c'est vraiment important. Et ceci, il est tellement important que pour fonctionner correctement, il faut plus d'une centaine de protéines. 100, 140 plus ou moins. Et ces protéines, si elles sont malades, peuvent donner des maladies qui sont souvent associé à une rétinite pigmentaire, parce que vous retrouvez le même cils au niveau de la rétine, et lui, il est là aussi pour la diffusion au niveau de la lumière. Maintenant, le cils, dans la rétine, il est super beau, dans d'autres endroits, il est plus petit. Il y a des protéines qu'on ne trouve que dans le cils de la rétine, et pas ailleurs. Et c'est pour ça que si ce sont ces protéines-là qui sont malades, il n'y a pas d'autres symptômes. Maintenant, vous avez une des maladies, par exemple, où on sait que si le cils, par exemple, dans le rein, ne fonctionne pas bien, eh ben, on a les mécanismes qui se passent. On a bien compris pourquoi le rein va être malade et pourquoi le rein pourrait évoluer vers la destruction rénale. Et donc, on connaît 4-5 mécanismes qui se mettent en place si le cils ne fonctionne pas. Et si le cils ne fonctionne pas, eh ben, on va faire tout ce qu'on peut pour essayer de compenser. Et médicaments, on en a plusieurs. On en a, par exemple, qui vont agir... Enfin, on a au moins 4 médicaments différents qui commencent à être prometteurs. Ils ne sont pas une thérapie génique, ils ne sont pas un traitement de la maladie, ils ne guérissent pas cette maladie, mais ils ralentissent la maladie. Et donc, pour le rein, on a parfois des solutions, mais on n'a rien pour l'œil, par exemple. Et ça, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'il y ait dans le futur des mêmes essais, des mêmes développements pour comprendre comment ça se passe, la perte des autres cellules autour de l'œil. Donc, enfin, je m'explique mal. Si vous avez la rétine qui est malade, vous avez un défaut, on va dire, congénital. Mais il doit quand même avoir, à un moment donné, une destruction. Et c'est une fois qu'on a compris, parce qu'il y a des gens qui ont une vue qui persiste, puis après ils ont une diminution progressive du champ, ça veut dire qu'il y a quand même une destruction des cellules rétiniennes. Une fois qu'on a compris les mécanismes qui sont à l'origine de cette destruction, il y aura sûrement des pistes de traitement. Comme on voit, il y avait, Mme Bennett a juste abordé un petit peu ça, l'optogénétique, qui est l'idée que peut-être, si on comprend tous ces mécanismes, on pourrait faire en sorte que les cellules qui ne sont pas encore détruites ne se détruisent pas. Et faire en sorte qu'on arrive à ralentir le phénomène de destruction. Ce que nous, on fait dans les essais par rapport aux cellules rénales. Donc,
si j'ai lu dans un article de vulgarisation scientifique que ces essais se faisaient par la pose d'un gel sur les yeux plutôt que de faire une injection de cellules dans l'œil, parce que le gel, l'effet est immédiat. L'effet est immédiat. Si on voit qu'il y a une efficacité, on peut envisager l'injection par une autre formule, par une autre voie. Et si on fait comme ça, on est certain de ne pas faire une injection qui serait contre-indiquée. Est-ce que j'ai bien compris la teneur de cette...
Oui, c'est un peu ça. Vous avez bien résumé, c'est-à-dire que l'idée, bien entendu, si on comprend les mécanismes, si par exemple on peut stimuler, donner un complément, que ce soit un gène, éventuellement s'il y a une destruction cellulaire, un facteur de croissance, que sais-je, ils sont ici plutôt à faire dans la génétique, ils le donneraient sous forme d'injection plutôt que des transplantations cellulaires modifiées. C'est vrai, j'ai lu la même chose. Mais j'ai ouvert, il y a sur le site, parce que c'est un gros hôpital américain, hein. C'est Stanton, Stanford qui lance l'optogénétique. Sur le site optogénétique, il y a une dizaine d'articles sur les deux dernières années. Mais ça a l'air de quelque chose qui pourrait être prometteur. Maintenant, bah, aussi, si vous avez, si je peux ouvrir un article, j'aurais pu le relire vite.
Ben là, quand même, maintenant, donc, il n'y a encore rien de tout cela qui est vraiment confirmé, qui fonctionne. Tout est toujours en projet, en étude.
Ah oui, l'optogénétique, c'est les premiers papiers dans Nature, c'était il y a 2 ans, oui.
Moi, je voudrais savoir par rapport à la rétinite et les maladies de la rétine, est-ce qu'on a, en constatant toutes ces déficiences qui peuvent être multiples, est-ce qu'on constate, par exemple, se dire que tu as une rétinite ou une maladie de Stargardt, il faut faire attention que peut-être il peut avoir des problèmes musculaires. Est-ce qu'il y a des liens là où, enfin, avec la multiplicité des cas, est-ce qu'on constate que des personnes qui ont des troubles de la rétine ont plus facilement des troubles rénaux ou des troubles musculaires conjoints ou pas?
Mais c'est tout l'intérêt des registres, ce que vous soulevez comme question. Hein. C'est tout l'intérêt des registres. Et les registres, ça va avec les essais cliniques. Donc, si on commence à se lancer, par exemple, ici, je peux parler de traiter les maladies rénales avec des médicaments, d'office, on enregistre des données cliniques pour avoir un suivi. Donc on ne fait pas des essais médicamenteux sur une personne, on va en faire sur 100, voire 200, essayer d'avoir un différent âge pour savoir répondre aux questions. Quand faut-il traiter, à quel moment, par quels moyens? Il y a plein de questions essentielles qu'aujourd'hui, on ne sait pas répondre pour les raisons.
Et ça, c'est...
Et c'est le seul intérêt des registres, c'est qu'après 5 ans, après 12 ans, ben, on peut dire, ben voilà, ça a eu comme association, ça n'y a pas eu. Vous voyez, si on vous demandait des feuilles d'évolution après un an, vous téléphone, est-ce que vous avez eu ça comme problème, ça comme problème? Parce que pour les formes dites associées ou syndromiques, oui, la plupart du temps, on fait des états des lieux avant. Donc, pour les enfants, on le fait souvent, même déjà en anténatale, on voit qu'il y a d'autres systèmes qui sont atteints. Hein, ce n'est pas des choses qui sont cachées, ce n'est pas des choses qui sont souvent méconnues. S'il y a une atteinte, par exemple, avec le cervelet, l'enfant, à la naissance, aura des troubles de la motricité oculaire. On le verra. Si c'est associé avec des anomalies osseuses, l'enfant aura éventuellement un orteil en plus. Donc il y a des associations qui sont vraiment assez caractéristiques que l'on peut diagnostiquer. Mais par contre, à ce stade-là, l'enfant est bien voyant. Donc vous voyez, on sait dire, c'est toute une... Je sais qu'on avait fait une discussion avec le professeur Mestal, on sait dire à l'avance que l'enfant va développer une maladie rétinienne, alors qu'il n'a aucun signe. Et que même si on faisait son fond d'œil, ce serait plus ou moins correct.
Tandis que ma question était, si plusieurs dans une famille ont des rétinites, est-ce qu'on va retrouver, par exemple, dans la même famille, des troubles musculaires ou des tendances à des formes de myopathie, des choses comme ça?
Mais
ou bien qu'on retrouve dans la population des rétinites régulièrement des atteintes musculaires.
Dans certaines familles, avec sur plusieurs générations, on verra quand même qu'il y a des différences. On verra qu'il y a des différences dans la présentation. Et ça s'explique en partie, comme je vous ai dit, par le fait que le bagage génétique est très multiple et qu'on reçoit des informations à chaque génération de l'autre parent. Et donc, vous avez à la fois des informations bienveillantes et puis on peut avoir des informations qui aggravent. Et donc, on peut avoir certains qui vont avoir plus de problèmes, d'autres au contraire, comme un saut de génération. Et donc, on a parfois, on a la maman, deux jeunes hommes qui ont une atteinte bien visible au fond de l'œil de la rétine, un oncle qui a une bonne atteinte de la rétine et une maman qui a rien du tout. Et en plus de ça, c'est même, probablement même pas lié à l'X, quoi. Parce qu'on a fait tous les tests, ça a l'air d'être plutôt dominant. Et donc, on peut vraiment avoir comme ça ces sauts de génération. Et l'oncle, il a 65 ans, il a moins de problèmes que les jeunes garçons qui ont 40, 35, 40. Et pourquoi ça s'est aggravé? Pourquoi leur maman n'a rien? Tout ça, c'est des questions auxquelles on ne peut pas anticiper. On pourrait éventuellement, dans 5 ans, répondre en disant, ben là, il y a un cocktail de 3 erreurs, là, il y a un cocktail de 5 erreurs génétiques. Alors, à ce moment-là, c'est plus mauvais que si on en a 2 ou si on n'en a que 3. Mais ce n'est pas des tests que l'on peut faire en prévision. Donc, imaginons qu'on a l'erreur fondamentale, celle qui fragilise à la rétine pigmentaire. Mais s'il me dit « et mes enfants », eh ben, personne ne dira « ce sera une forme à 30 ans, une forme à 60 ou 70 ans ». Personne ne pourra répondre. Merci.
Et maintenant, par exemple, quand on a un parent qui a la rétine pigmentaire, le, donc, moi j'ai le syndrome du gène, mon fils est porteur du gène, donc oui, il a été guignard. Lui, dans son cas, s'il a des enfants, est-ce qu'on sait faire quelque chose? Est-ce qu'on sait détecter ou si lui il aura un enfant porteur ou atteint de la maladie?
Alors, ça c'est des situations où ça on peut donner une information assez rassurante. Parce qu'on dira que la probabilité est très faible. Même si, comme je viens de dire, on a tous beaucoup d'erreurs génétiques, l'idée qu'il ait une erreur dans le même gène que vous chez la compagne de votre fille,
voilà, c'est ça,
est faible.
Oui, mais bon, papa l'avait, maman l'avait.
Oui, c'est
ça que je dis. Eux se sont bien rencontrés, ils l'avaient. Mm. Par malchance, ils pourraient très bien rencontrer. Mais dans le cas, nous, maintenant, parce que quand on parle de génétique, dans le cas maintenant où elle aussi serait porteur, est-ce qu'ils pourraient envisager tous les deux d'avoir un enfant et une... On s'est ciblé, donc, par...
Ça semble quand même, à l'heure actuelle, vraiment pour certaines maladies graves. Et là, le seuil de gravité est vraiment lié au fait de ne pas avoir de possibilité thérapeutique.
Et là, alors, c'est important de faire...
Alors, à ce moment-là, on recourt à ce moment-là, on recourt et une des méthodes les plus élégantes, qui devrait encore être un peu développée, c'est vrai que pour l'instant, en Belgique, on a qu'un centre, mais il est fait très très bien. Il y a un deuxième qui essaye de rattraper son retard, qui est la KUL, et puis bon, c'est vrai que nous, on était... encore la seule passée, c'est vraiment un besoin qu'il faut pouvoir aider pour certaines maladies, c'est le diagnostic préimplantatoire. C'est vraiment utiliser donc, toutes les techniques de fécondation in vitro et faire un diagnostic génétique sur un embryon. Donc les embryons, s'il y a 4 ou 5 embryons en laboratoire, on prend une cellule et on fait le test génétique. Et on n'implante que des embryons qui n'ont pas le problème de santé. Et à ce moment-là, on est dans des conditions où la maladie ne se transmet pas et on guérit, si vous voulez.
Mais oui, voilà, parce qu'on stoppe la chaîne.
Oui. Ouais.
C'est ce qu'on avait vu avec le professeur Bartleroy, je pense, à l'avant-dernière.
Oui, oui.
Alors, on en avait parlé.
Oui, non, ça c'est pour beaucoup.
Et comment est-ce qu'on peut identifier que l'embryon est sain, vu que des fois on ne sait toujours pas identifier le gène qui cause la maladie?
Alors ça c'est là, c'est de nouveau là où la génétique est intéressante. Il faut avoir un test génétique préalable pour pouvoir après faire un diagnostic préimplantatoire.
Il faut connaître le gène mutant.
Il faut connaître l'anomalie, il faut connaître la cause génétique.
Moi j'ai fait l'examen avant, maintenant mon fils avait fait l'examen aussi, donc c'est comme ça qu'on a retrouvé mon gène dans.
Mais nous on a fait le test aussi, mais le gène n'a pas été identifié.
Ah oui, c'est ça. C'est comme j'ai dit, même quand on envoie chez Hans Schaeffer qui centralise pour toute l'Europe, sur 100 ils répondent dans 30% des cas.
Ouais. Moi je pensais que tous les gènes étaient identifiés.
Non.
30%, le gène pourrait apparaître davantage plus clairement quand on est paysagé, ou bien c'est immuable?
Non, c'est immuable. Mais il y a des maladies qui sont tardives et d'autres qui sont précoces. Et puis il y a des défauts génétiques qui peuvent parfois, on croit là, par exemple, je ne sais pas moi, justement ici je donnais l'exemple de ces deux frères et de leur oncle, mais qui me dit qu'ils ont tous les trois la même maladie? Parce que la rétinite c'est quand même fréquent. Et donc parfois on est amené à tester deux ou trois pour comprendre la cause. Et c'est là où on passe de 30 à 40-45%. On n'est pas plus haut. Parfois, en testant deux ou trois personnes dans la même famille, on a plus de chances.
Est-ce qu'on a une idée de l'allure à laquelle on découvre de plus en plus de gènes?
Ah oui. Entre 2000, donc avec les nouvelles techniques de séquençage, entre 2010 et 2012, je crois qu'il y avait... chaque mois, un ou deux nouveaux gènes dans les rétines pigmentaires, dans l'audition, dans les déficits auditifs qui apparaissaient. Donc, il y en a eu plus d'une vingtaine en un an.
Donc, avec les recherches, par exemple, dans le cas de Chloé, on ne sait pas les origines, on peut, d'ici quelques années, peut-être quand même trouver.
Oui, bien sûr.
Ah, oui, c'est pas irrémédiable.
Mais ça dépend quel test on a fait aussi. On a fait quoi comme recherche?
Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez comme test. On est suivi par Bartleroy, mais je ne sais pas ce qu'il a exactement fait comme test.
Parce qu'il y a sais pas, oui, il y a différentes techniques pour rechercher. Et tout dépend, hein. C'est pour ça, il y a des fois où, je veux dire, il y a plusieurs méthodes. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il y a. Mais ce qu'on appelle le top gamme, ce que nous, au moins, personnellement, je n'ai jamais fait jusqu'à présent, parce qu'il m'a toujours refusé les cas, mais je comprends, hein, quand il n'y a que 30% de réponses, c'est chez Anne Schaeffer. C'est un email, c'est vraiment le gros centre des réponses alimentaires. Et eux, ils ont un outil et surtout, ils ont l'expérience, parce qu'ils ont testé, ils centralisent pour toute la Hollande. Mm-hmm. Et donc, c'est des pays où tout est centralisé. Merci, tout passe dans vraiment tous les échantillons au même endroit. Ils sont tous vus par les mêmes ophtalmologues. Et là, voilà, ce seuil de mutation, il tourne autour de 30 à 35%. Et il est venu cette année à la Société européenne de génétique, donc devant tout le milieu européen de la génétique, pour expliquer pourquoi il arrivait qu'à 30%. Alors que c'est vraiment un des plus gros centres en Europe, mais même pour toute la génétique, et pas seulement pour la rétine pigmentaire. Et il a expliqué que ces difficultés étaient liées parfois à la qualité de l'ADN, parfois au fait qu'il tombait sur énormément d'erreurs génétiques, toutes sortes de difficultés techniques qui parfois, s'il y a une ou deux personnes, s'il y a deux personnes par exemple atteintes dans la même famille, ça facilite un peu la tâche. Si on a les parents, ça facilite la tâche. Si on a les enfants, si c'est une personne plus âgée, pour savoir comment ça se distribue. Enfin, toutes des astuces génétiques pour essayer d'arriver un petit peu plus que 35%. Parce que c'est vrai que c'est vraiment peu. Alors que pour certaines maladies, vous me direz, c'est comme ça dans toutes les maladies. Non, il y a des maladies où on est à 95% de mutations.
Lui utilise une technique particulière, c'est ça que je comprends pas bien.
Un chercheur, il utilise ce qu'on appelle un séquenceur de nouvelle génération. Donc, il a développé un système pour capturer, et de façon, on va dire, efficace et de qualité, mais j'avais pris ça, Madia, pour vous montrer, et il capture une cinquantaine de gènes. C'est-à-dire qu'il met un petit code barre sur les ADN, tout est. Et en un seul échantillon, il arrive à lire, on met 50 fois, c'est à peu près entre 500 000, entre 300 000 et 500 000 lettres par échantillon. Et sur ces 400 000 lettres, en moyenne, chacun a 2000 erreurs. Maintenant, il filtre énormément, mais malheureusement, il se retrouve quand même encore avec un nombre important. Oui,
voilà. Et pourquoi est-ce qu'il refuse les patients? J'ai pas compris ça.
Ah, il refuse. Il refuse parce que c'est vrai que, bon, j'espère nous convaincre, hein, mais c'est vrai que j'avais invité. Voilà. C'est une vieille histoire, j'attends que l'année passe. Et que... non, c'est une histoire d'invitation.
C'est quand même dommage que quelqu'un qui a ce moyen justement d'exploiter justement ces moyens.
Oui, non, mais c'est quelque chose qui devrait évoluer vers le positif.
Oui, voilà, tout à fait. Mmh.
De toute façon, il est très bien ce monsieur.
Mais il n'y a personne d'autre en Europe qui a ce type de technique pour...
Si, cette technique-là, oui, nous, il y a beaucoup d'autres qui l'utilisent, mais lui, il a l'expérience, parce que si vous avez chaque fois 500 erreurs à plus de 2000 par personne, il faut quand même éliminer celles qui sont pas graves. Ouais, et c'est plus vous en avez vu, et plus vous pouvez éliminer les banales. Hein. D'ailleurs, le monsieur, il y en a un qui était venu parler du test génétique de nouvelle génération aussi, le 24. Il a aussi montré, hein, j'ai vu ses diars, il a aussi montré une jeune femme qui avait 3 ou 4 mutations, puis que c'était celle-là qui était la cause. Bon, là, c'est vrai que il faut quand même un peu de know-how. on pourrait éventuellement sous-traiter à la Chine, mais on n'aurait pas le même know-how, le même mode de, la même expertise. Par exemple, si c'est un problème de cils primaires, ou s'il y a par exemple deux systèmes qui sont atteints, je n'envoie pas un chauffeur, j'envoie un autre laboratoire, qui eux ont une capture de 140 gènes, tout le cils. Mais là, c'est aussi c'est du scientifique. Je fais signer au patient que c'est dans le cadre de la recherche. Mais bon, là, on a eu, par exemple, la mutation chez un petit enfant. Ça, il les trouve. Donc, ça fonctionne, mais c'est vraiment cas par cas. Tandis que l'outil qui avait été développé à Nimeg, c'était vraiment un outil diagnostique. C'est comme ça qu'il avait été, on va dire, conçu au départ, pour analyser toutes les rétinites pigmentaires qu'il y avait en Hollande. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose de similaire en Suisse, que je peux encore essayer de me renseigner. Sinon, la plupart des centres, je pense que celui de Gand travaille, la plupart travaillent avec Asper en Estonie, donc Asper Ophthalmique, qui est une société estonienne, qui a un outil assez efficace et peu coûteux pour aller chercher les mutations connues. C'est pas du séquençage, hein, c'est simplement aller chercher tout ce qu'on connaît. Et ça, ça va vite et ça coûte pas cher. Et c'est vrai que la plupart travaillent avec ces centres-là. C'est vrai que c'est... Je veux dire, là, vous avez un résultat, on sait que c'est des anomalies connues, on n'a pas la question est-ce que c'est ça la cause ou est-ce que c'est pas ça la cause. Toute la partie, on va dire, d'analyse ou d'expérience n'est plus aussi importante que quand vous travaillez. Vous savez, c'est quand il faut lire toute une encyclopédie ou quand on vous a déjà prémâché le travail. Et donc, c'est vrai qu'ils ont parlé de ces tests. Et ce sont des machines que nous-mêmes on utilise, et en Belgique plusieurs centres, et beaucoup ont l'expérience. Mais pourquoi on ne le fait pas pour ces rétinites? C'est parce que chaque fois il faut développer le kit, il faut développer l'expérience avec toute la connaissance derrière pour un groupe de maladies. Et pour ça, il faut de nouveau avoir une porte d'entrée. Beaucoup de patients qui viennent avec la même maladie, qui veulent le test génétique. D'où tout le rôle de l'association, hein, c'est vrai. L'association, c'est aussi une grosse porte d'entrée pour dire après, aux généticiens, on a quand même 50, 60 patients, là-dedans, il n'y en a que 10 qui ont leur test génétique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que pour le Stargardt, par exemple, hein, le Stargardt, ça marche. Du tonnerre, hein. Tous les Stargardt, ils ont leur diagnostic génétique. Hein. Pardon ? Toutes les maladies de Stargardt ont leur diagnostic génétique. Hein. Donc si vous, on avait dit que vous avez une maladie de Stargardt, ouais. Alors c'est étonnant qu'on n'a pas, vous n'avez pas le test génétique. Hein.
Oui, c'est que j'étais...
Oui, mais je veux dire, parce que tous ceux que je connais, ils en ont tous. C'est récessif, c'est récessif.
Ouais, je rencontre le professeur, je crois, ouais. En novembre, donc je ne sais pas.
Ah oui, mais c'est un test génétique qui marche super bien, en tout cas. Là, ça marche bien. C'est un test génétique qui fonctionne bien.
Je pense qu'avant, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça ne se faisait pas. Voilà. Il y a ma maladie. Comme ça.
Ouais, mais c'est... À l'heure actuelle, ça marche super bien. Donc, ça, c'est un test qui fonctionne bien. Il y a quelques syndromes, enfin quelques rétinites pour lesquels on a vraiment un bon test, mais pas pour toutes.
Oui, c'est une manière de confirmer, c'est ça, je t'en regarde ou pas.
Ah oui, bien sûr.
Hein. Ah, ouais. Ça, je t'en regarde, tant qu'on n'a pas trouvé la preuve génétique, on ne peut pas le...
Et en plus, dans Stargardt, c'est vraiment bien fait parce que c'est vraiment un des exemples de ce que j'ai expliqué, des défauts qualitatifs et quantitatifs. On voit qu'un défaut quantitatif, la présentation est avant l'âge de 20 ans. Il y a vraiment des bonnes relations et on tombe sur des erreurs sévères. Oui. Ça, c'est vraiment un test qui est confirmatoire, qui confirme. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est beaucoup, dans beaucoup de maladies génétiques, c'est comme ça. Sauf dans certains où finalement derrière il y a énormément de causes. Et alors à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile. Et alors, moi, c'est vrai que, bon, à la séance d'avant, à Gand, c'était quand? C'était le mois de novembre? C'était
en décembre.
En décembre, il y avait l'équipe du professeur Saïd qui était venue, hein, qui n'est pas revenue cette fois-ci parler des prothèses. Bon, c'est vrai que la prothèse Argus a son intérêt. Et puis alors, je ne sais pas, mais ça a l'air quand même assez prometteur, c'est tout ce qui est la nanorétine. Donc, ça, c'est...
Ce qui est quoi?
La nanorétine.
La nanorétine.
Vous pouvez préciser?
La nanorétine, c'est une société qui est basée en Israël, qui a 60 millions, mais qui a aussi un poste aux États-Unis, vient de recevoir 60 millions de dollars pour commercialiser en 2015, déjà dans des essais cliniques, ce qu'ils appellent des nano-prothèses. Et c'est vraiment, ouais, c'est à la taille d'un ongle d'un bébé qu'on implante au fond de la rétine, avec plus de 2000 pixels. Et d'ailleurs, ils montrent les images sur leur site. On voit, ce sera toujours une vision noir et blanc, mais vous avez l'Argus où on voit simplement des taches blanches et des taches noires. Et leur prothèse, on voit vraiment une photo. On pourra lire le journal et on pourra voir la télévision, regarder des choses. Maintenant, leur projet fonctionne sur, donc c'est vraiment de la nanotechnologie, ils ont reconstruit une mini-rétine qui va dialoguer avec le nerf optique et ils stimulent cette mini-rétine avec un mini-laser qu'il y a sur des lunettes. Donc en termes de technologie, c'est une demi-heure pour aller implanter la pastille. Et ensuite, c'est des lunettes que vous portez, que vous ne portez pas. Quand vous les portez, vous activez la rétine artificielle. Et quand vous ne les portez pas, vous n'avez pas, vous ne voyez pas.
L'équipe de Srenet, franchement, en Allemagne,
oui. Mais ça, peut-être qu'ils sont un peu plus loin.
Ah oui, parce que moi, j'avais rencontré donc, une personne qui avait été implantée dans le site de l'appareil. Et là,
c'est
là,
quoi?
C'est pas un équipement. Oui, par l'équipe de
Srinet. Voilà. Elle était à 500 pixels. Elle est
oui, bonne. C'est ça, oui.
Ouais. 500 pixels. Ouais, je sais plus. Ouais. Ouais.
C'était quand même assez impressionnant comme résultat par rapport
oui.
à l'Argus.
Ça a l'air assez prometteur.
Ah, ouais. Mais c'est uniquement pour quelle pathologie? C'est uniquement pour toutes les...
Pour tout,
les déficients visuels.
J'ai l'impression que c'était pour tout le monde. Quand il fallait avoir un diagnostic, en fait.
Il fallait,
oui, voilà.
J'ai bien compris, c'est ça, parce que si le nerf optique n'a plus de travail depuis très longtemps, il se détériorerait, j'ai bien compris.
Oui. Oui, il faut un nerf optique en bon état.
Il faut avoir une vue.
Il faut avoir vu et, ouais, si possible, pas été trop longtemps déficient. Voilà.
C'est ça que j'ai compris, mais tout à l'heure. Mais c'était beaucoup plus avancé que l'autre matériel dont tu parlais.
L'Argus,
oui. L'Argus,
oui. Ça aide, entre autres.
Ça, oui, c'est deux mondes. Hein.
Ouais, c'est deux mondes.
Hein. Là, c'est pas l'appareillage qui est lourd.
Ah oui, tandis que là, c'est juste une lunette avec un mini laser qu'on ne voit même pas. Hein.
C'est extraordinaire.
Et qui sera donc commercialisé en 2015.
Oui, les groupes israéliens commercialisent en 2015. Ils ont déjà commercialisé maintenant des lunettes. Hein. Je ne sais pas, vous les avez vues, ces lunettes déjà?
Non. Ouais.
Alors, ils ont commercialisé des lunettes parce que nous, on en a déjà acheté une paire d'ailleurs, pour voir. En fait, il y a un petit GPS et un petit caméra webcam.
Caméra.
Oui.
Ça, j'ai vu.
Ça marche comment? Enfin,
c'est une petite caméra, elles sont 1 500 $ avec une petite caméra webcam et qui parle. Et alors elle vous dit feu rouge, feu vert, traverser. Et il y a un petit GPS aussi pour vous guider. Donc, c'est tellement intelligent qu'il suffit de dire à au petit GPS, ben moi je quitte la maison et je vais, je sais pas moi, au Deleuze, et ben il fait déjà tout chemin, il vous guide.
Et ça, vous en avez fait assez possible de voir en fonctionnement?
Ouais. Moi, j'ai une tante qui a une rétine qui est non-voyante et on vient d'en acheter une. On va la recevoir, on l'a commandée au mois de septembre.
Les Google Glass, quoi.
Ouais, c'est la même chose que Google Glass, mais c'est les Israéliens, c'est les mêmes groupes.
Et donc, ça, c'est avec des anneaux?
Non, ça, c'est, non, ça, c'est une vraie caméra.
Mais il y a un site internet, en fait, où on peut trouver les infos. Ça, on tape nanorétine sur internet, on trouve.
Oui, nanorétine, ça vous tombe. Mais oui. La caméra, la lunette, là, maintenant, je ne sais pas le nom. Mais je sais que mes parents, ils l'ont acheté. Ouais.
Okay. Et on pourra avoir des retours de votre part quand.
Ma tante, elle, parce qu'elle ne veut pas de canne, mais on lui a fait ça.
Oui, mais ça va lui permettre d'éviter des poteaux.
Je vous dirai. Ouais. Pour la fin, elle
est. Sur la caméra.
La caméra voit les marches. Ça, par contre, on a posé la question.
Parce que ça fait quand même beaucoup d'instructions à donner dans un temps très bref.
C'est vrai.
C'est, ouais. C'est comme un GPS de voiture, quand on dit tourner à droite à 500 mètres. Ici, c'est une marche à 1 mètre.
Oui, mais il paraît que la seule chose, c'est que pour l'instant, elle n'est qu'en anglais. Mais bon, voilà.
Vous êtes tombés.
Moi, j'ai posé les mêmes questions que vous. J'ai dit la même chose. Mais bon, ils se sont lancés. Ils ont acheté ça. Voilà.
Ça peut être une solution.
Est-ce qu'on pourrait profiter de la nanorétine? Et dans X années, quand la thérapie génique sera au point, profitez alors à ce moment-là de la thérapie.
Ah, oui, madame, si on peut l'enlever.
C'est marrant parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui pensent la même chose que monsieur.
Oui, parce que j'étais en train de penser aussi.
Je pense que la génétique d'hier pourrait nécessairement être fort long. Et en attendant, est-ce qu'on peut bénéficier de quelque chose? Et puis, exactement, parce que.
Bénéficier de la nanorétine qui fait travailler le nerf optique et qui garde fonctionner le lobe occipital, je trouve que ça, c'est vrai que ça a du sens. Hein.
Parce que ça ne dispose pas qu'on accède à la technologie nanorétine et qu'ensuite, à cause de ça, on ne puisse plus accéder à la thérapie génique.
Ben, éventuellement, il faudrait voir si on n'implante que dans un seul œil. On a la chance d'en avoir deux. Maintenant, c'est pour ça que je ne pense pas que c'est exclusif. L'un aux heures
des bras ou l'autre. Ça peut être l'un et ou l'autre.
Voilà. Et surtout que la nanorétine, j'ai cherché pour voir s'il y avait une vision nocturne. À mon avis, il n'y en aura pas. Sauf si on aura la chance d'avoir un truc pour exciter, si une caméra infrarouge, enfin je ne sais rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas planifié. Donc ça veut dire que vous ne voyez que
quand il faut que j'aie
un canne à l'égal.
Le mélodieux, c'est pas trop, probablement pas trop éblouissant non plus.
Non, parce qu'il faut activer le laser. Je crois que ça, on n'est pas choqué, mais je crois que c'est dans le noir, quoi. C'est plus difficile.
Est-ce qu'il y a déjà eu des accords avec les différents pays ou quoi, pour savoir comment vont être gérés le coût de cette nanorétine?
Je crois qu'en Allemagne, c'est bien loin déjà. En tout cas, ils remboursent déjà l'Argus. Et aux États-Unis, ils remboursent l'Argus. Donc, à partir du moment où ils ont accepté le remboursement des prothèses, ils vont aller de l'une à l'autre. Hein.
D'accord.
Donc, c'est une chose qui va se développer aussi très rapidement.
Ah oui.
Et je ne sais pas si vous connaissez le processus, mais pour le moment, est-ce qu'ils sont à la recherche d'augmenter le nombre de pixels ou d'apporter
oui,
la dimension?
Non, ils augmentent le nombre de pixels. Enfin. Parce que maintenant, c'est 500 et ils vont monter à 2000 pour 2015.
Ah, parce que moi j'avais lu, je crois, dans un article que pour reconnaître un visage, il fallait qu'on atteigne 1000 pixels à peu près.
C'est pour ça, ils sont à 2000.
Donc maintenant, ils devraient peut-être plutôt se concentrer, ou peut-être qu'ils le font, sur la couleur. Ou... Parce que non, là, ça, avec cette nanorétine, on voit en
noir et blanc.
Et en
deux.
En
noir et blanc. Et 2000 pixels.
Les premiers appareils photo numériques faisaient 1600 pixels.
Ouais.
Vous pouvez être à 2000, on est au-dessus de ce que vous faites à l'appareil.
C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant.
Et je me souviens qu'il parlait de ça quand c'était l'année passée
à Hambourg. Il y a deux ans, je crois. On a vu cette personne qui a pu porter cet appareillage à l'essai pendant plusieurs semaines. Et puis, comme c'était un essai clinique, on a dû l'enlever.
Mais à ce moment-là, donc, ils prenaient conscience qu'ils devaient monter le nombre de pixels, mais ils étaient un peu arrêtés parce que augmenter le nombre de pixels, c'était chauffé, le petit appareil. Ils étaient en recherche de ces
par là. Ils expliquaient qu'il fallait régler parce que s'il y a une chaleur trop importante dans l'œil, ça peut avoir des répercussions alors au niveau cérébral. C'est toute la recherche.
C'est ça le problème. Je crois que c'est un Israélien aussi à adopter. C'est pour ça qu'ils vont monter mieux.
C'est ça. Ils ont reçu parce que c'est pour 2014, ils pourront faire des essais. Donc disons 2015, on aura les résultats. Mais 2014, ils planifient d'avoir des nanos. À 2000 pixels.
Et dans ce cas-là, est-ce que par exemple toutes les macules tardives
c'est pour ça qu'ils ont tellement d'argent.
Oui, parce que ça crée plus de
pathologies. Un paquet de personnes qui peuvent en bénéficier.
Tandis que quand on est une maladie stargate, c'est pas tellement
fréquent. Et c'est pour ça que le coût sera, à mon avis, aussi tout à fait différent que l'Argus.
L'Argus, on verra déjà combien.
C'est l'éducation qui coûte cher. Parce que là, la nanorétine, c'est instantané. Donc, il faut quelques jours maximum. Donc, il n'y a pas d'éducation.
Tandis que dans la.
Oui. Parce qu'on utilise tout ce qui est en place, le nerf optique, tout ça. C'est là qu'il faut avoir quand même un bon nerf optique. Maintenant, dans l'Argus, il faut stimuler, il faut envoyer des. Vous savez, c'est un système qui est électrique. Donc, on bypass le nerf. On bypass la rétine, on va stimuler directement le nerf. Donc, il faut faire, c'est comme pour les implants cochléaires. On stimule, donc on bypass l'oreille, on va stimuler le nerf auditif. Et donc, il faut que les stimuli correspondent à quelque chose qui va se donner une image. Ouais. Et comme la personne n'a pas vu ou n'a plus vu, il faut qu'il recompose que ça, c'est par exemple une maison ou ça, c'est une maison.
Mais vous savez, juste avec deux secondes, le fonctionnement de l'Argus et qu'est-ce qu'on voit avec ça, enfin, quel est le résultat qu'on obtient avec l'Argus?
Alors, le fonctionnement de l'Argus, c'est une prothèse extérieure. C'est comme si on bypassait la rétine. On sait que la rétine ne fonctionne pas. Et donc, on greffe une sorte de rétine artificielle avec un boîtier qui va aller stimuler, si j'explique bien. Le nerf optique.
D'accord.
Et donc, vous allumez, vous éteignez, donc il y a un volet, on va dire, contrôle, et quand, un peu comme un appareil auditif, et c'était un peu l'idée. L'idée, c'était d'essayer d'implanter quelque chose sur le nerf optique qui reconstruit l'image, comme on a implanté sur un nerf auditif. Un système qui reconstruit le son. Maintenant, l'image est beaucoup plus complexe. Et donc là, pour l'instant, on arrive simplement à avoir un flouté blanc et noir. Mais ça suffit. Ça suffit parce que vous revoyez la lumière. Vous revoyez la profondeur. Et donc, même avec ces résultats qui sont, on va dire, pas précis en termes d'image, il y a déjà un énorme gain. Et donc c'est pour ça que beaucoup de systèmes de soins de santé ont accepté le remboursement de la prothèse Argus. Et ça veut dire tout ensemble, c'est moins cher qu'une greffe hépatique. Donc c'est un soin de santé qui est coûteux, mais pas excessivement coûteux. Ça veut dire que c'est surtout une prothèse qui coûte un certain prix, peut-être 10 ou 20 000 euros. Et puis tout le reste, c'est d'aller régulièrement chez un spécialiste, comme on aurait un orthophoniste hein, ou un spécialiste, un audiologue. Ils vont regarder si on voit le blanc, le noir, si vous avez gagné un peu de lumière, si le contact entre la rétine artificielle et le nerf optique fonctionne correctement. Et c'est ça qui peut prendre chez M. Sahel, donc à Paris, qui peut prendre quelques mois. Et où il a eu, et c'est vrai, il a dit, toujours, il y avait très peu de femmes. Ce n'est que des hommes. Des hommes entre 30 et 50 ans. Parce qu'il y a vraiment un apprentissage.
Et est-ce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires de cette technologie ou vous avez mis fin
je... Oui, là maintenant, je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vous pouvez... Là, vous allez sur Internet, vous voyez, vous avez des interviews. Vous avez... Non, il y en a beaucoup puisque c'est remboursé. En Allemagne, c'est remboursé. En France, ça va l'être incessamment sous peu. Donc, les Allemands sont en première ligne et donc ils ont déjà l'expérience de plusieurs années. Donc,
c'est et ça, sûr. C'est pour quelle maladie particulièrement ?
Ça, c'est surtout pour les rétinites pigmentaires liées à l'X, on va dire. Les formes classiques, c'est surtout ça qu'ils ont vu.
Mais avec le gros qualitatif qu'apporte la nanorétine, est-ce que avec un champ plus large, est-ce que les recherches sur l'Argus ne risquent pas d'être freinées ou abandonnées ?
Ben, je pense que l'Argus, ce sera une génération de patients. Et ce sera
pas plus deux maintenant.
Oui, mais ça sera pour un groupe de patients qui auront montré que c'était utile et qui peut-être même bénéficieront plus tard d'une nanorétine. Mais qui auront montré qu'il fallait le remboursement. C'est parce qu'il y a eu l'Argus que maintenant il y aura autre chose. Donc c'est sûr qu'il fallait quand même démontrer.
Il fallait
démontrer que c'était utile. Il fallait démontrer que finalement, même un coup, ça ne fait rien par rapport, je dis, à une transplantation de foie ou une transplantation rénale. Je ne pose pas la question. Donc il fallait passer par là.
L'Argus, ça s'adresse vraiment aux gens qui ne voient rien du tout, en fait.
C'est pour l'instant, oui. Oui, pour l'instant, oui. Ou alors vraiment une vision très, très, très tubulaire, vraiment très étroite.
Tubulaire.
Moi, ce qui me pose un peu question, c'est très bien tout ça, mais est-ce que finalement, ça ne donne pas beaucoup d'espoir aux gens pour pas grand-chose, entre guillemets, dans le sens où je pense que ça va s'appliquer. Cette technologie va s'adresser plutôt à un public privilégié et c'est pas maintenant qu'on va bénéficier. Enfin, je veux dire, c'est.
Bah, je crois que les prothèses, oui, peut-être que dans 5 ans quand même, elles seront accessibles à tous. C'est comme un implant cochléaire pour un malentendant. Vous savez, il y a eu aussi, à un moment donné, il y avait les appareils auditifs. Et qui était donc qui aidait, mais qui ne permettait pas à l'enfant d'acquérir le langage, par exemple, ou qui n'était pas parfait. Et donc, c'est vrai que il y a eu beaucoup de résistance quand il y a eu la possibilité de mettre en place des implants, parce qu'il y avait des parents qui ne voulaient pas que leur enfant parle, puisque eux étaient non parfaits sans langage, et alors, et ils ne voulaient vraiment pas du tout qu'il y ait accès à l'implant, et donc il a fallu là aussi que des familles se battent, des familles avec un premier enfant qui a une surdité sévère, qu'on diagnostiquait malheureusement parfois que vers 3-4 ans, et donc à ce moment-là on s'est rendu compte que le langage arrivait, que la qualité de vie était meilleure, et puis au début on remboursait que un implant, maintenant on est prêt à rembourser un deuxième implant, et même dans des groupes de population qui ne souhaitaient pas être implantés, on a comme ça des adultes qui ont été des malentendants toute leur vie qui viennent en disant ben, « Maintenant, j'ai quand même envie d'essayer un implant cochléaire. » Donc, il y a une éducation et tout s'est mis en place. Ça a mis...
Les premiers implants, c'est il y a 30
30 ans.
Ouais. Et maintenant, on a des gens qui ont 35, 40 ans, qui sont malentendants depuis la, qui sont sourds profonds et qui veulent avoir un implant cochléaire. Donc, il y a une technique, il faut le temps d'adaptation, il faut le temps de prouver que ça fonctionne, et puis ensuite, beaucoup de gens en profitent. Les prothèses au niveau de la rétine, ou en tout cas la puce qu'on pourrait imaginer dans le futur de nanorétine, c'est quelque chose qui est prometteur. Maintenant, on a déjà le remboursement de la prothèse dans beaucoup de pays. Il faut quand même que ça arrive chez nous, mais je crois que je ne sais pas quelle est la politique ici, je ne sais pas comment ça va se faire. Mais dans tous les autres pays avoisinants, ils vont tous accepter. Et donc, on peut très bien imaginer que dans 5 ans ou dans 6 ans, ça devient une carte médicale comme une autre. On a essayé, malgré toute la difficulté, malgré toute la spécificité de la malvoyance, en tout cas apporter un outil qui puisse aider à fonctionner correctement. Mais c'est vrai que c'est pas de la vision aux couleurs, c'est vrai que c'est pas de la vision nocturne, c'est vrai que c'est pas une vision comme un autre, mais c'est un outil qui peut être prometteur. Franchement, ça oui.
C'est comme les gels lipides ne remplacent jamais une oreille naturelle. Mmh. Moi, j'ai des gels lipides, mais on entend, oui, ça me permet d'entendre une voiture qui arrive et tout ça, mais une conversation dans un... Ici, c'est l'idéal parce que tout le monde laisse parler, mais quand on est dans des cours, que tout le monde parle en même temps et tout ça, ou même en réunion, quoi que ce soit, les aides auditives ne sont jamais... ne remplacent jamais vraiment une oreille. On n'entend jamais aussi bien qu'avec une oreille naturelle. Et c'est ça que je me dis, les nanorétines ne remplaceront jamais un œil qui voit naturellement, mais va pouvoir apporter une qualité de vie supérieure. C'est surtout ça. Moi, sans mes appareils auditifs, en plus de ma malvoyance, mais je ne sors pas de chez moi. S'ils sont en panne, je ne sors pas de chez moi. Mais quand je les mets, je sais que je n'entends pas comme les autres, mais ça me permet de partir quand même. Ouais. Donc, ma gaine blanche et mes appareils, quoi. Sans ça, je ne bouge pas. Je suis cloîtrée chez moi.
Par rapport à toutes les recherches qu'on fait maintenant au niveau neurologique et avec tout le développement de la capacité cérébrale de se redévelopper et de retravailler, comme par exemple avec la brain gym et d'autres choses, est-ce que le fait de mettre un appareil qui n'est pas l'idéal, est-ce qu'on ne peut pas augmenter les capacités interprétatives du cerveau aussi? Parce que malgré tout, quand on fait une rééducation même de gymnastique de l'œil, de l'idée, à prendre un plus grand champ et tout, moi je pense, c'est peut-être mon expérience, je me dis, mais moi j'ai acquis des images incroyables dans mon cerveau qui sont bien plus importantes que ce que ma vue me donne. Donc je me dis que si on redonne une capacité à l'œil de retrouver un travail, est-ce que les neurocérébraux ne vont pas aussi se redévelopper?
Oui, mais ça c'est toute la question de d'avoir mis éventuellement au repos certaines régions. Et alors, c'est ce qu'on dit toujours aux mamans et aux papas qui ont un enfant qui est sourd profond. On leur dit, même s'il y a une surdité très très sévère, parfois même qui touche jusque à la fréquence de 500 Hz, donc la fréquence du mariage, comme il y a eu cette phase où il était dans le ventre de la maman où le son a diffusé, on peut quand même imaginer qu'il a ou imaginé un son ou entendu quelque chose. D'ailleurs, régulièrement, on dit que l'enfant entend dans le ventre de la maman. Et donc, on met toutes les armes pour arriver à acquérir le langage, même si techniquement, sur papier, on a très peu de chance. Mais on va faire le maximum pour le faire, pour y arriver. Et de temps en temps, ça fonctionne.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai compris votre question les régions visuelles du cerveau ne sont plus stimulées
par la déficience visuelle. Est-ce que voilà, on...
mais pour ça, je sais que l'enfant, il n'avait pas de il n'avait jamais vu, il n'avait entendu.
Ouais, oui.
Et pourtant, on va lui mettre un implant pour qu'il entende, même ce qu'il est censé ne pas entendre en dessous de 500 Hz.
Ouais.
Donc, c'est pas pour ça qu'on va dire aux parents, il ne va pas parler. Il aura des difficultés. Il aura une articulation beaucoup plus délicate qu'un autre. Mais il va quand même, avec la puissance de la rééducation et du langage écrit sur les lèvres, hein, par exemple, et ben, enfin, oral, comme on peut dire, sur les lèvres, et ben, il va apprendre les mots et il y a l'association avec les images, il y a tout un langage des signes accompagnés pour arriver à rire, et ben, l'enfant va parfois parler, et même parfois très bien parler, hein, qu'il est sur des termes.
Ici, je pense quand même à toute rééducation qu'on fait maintenant, après un APC ou quoi, où on restimule quand même d'une toute autre façon la personne à récupérer qu'on le faisait il y a 50 ans.
Ah oui, oui, c'est pour ça.
Et c'est ça, moi je me dis qu'il y a les deux en connexion peuvent permettre des résultats beaucoup plus.
Mais c'est pour ça que
réutiliser le cerveau droit, le cerveau gauche,
c'est vrai. Mais c'est pour ça que vous pointez quelque chose qui est tout à fait vrai aussi, c'est que quand il voit les résultats, c'est mieux à un an, c'est mieux à 18 mois avec l'arbus. C'est ça qui est formidable, c'est que tous les mois qui passent, même si la vision mesurée est toujours identique, la personne a le sentiment de mieux voir et de mieux se sentir et d'être mieux coordonnée dans l'espace.
Et au sujet des 2000 pixels de la nanorétine, est-ce que c'est quantifiable au niveau acuité visuelle? Est-ce que ça correspond à...
Ah, ça correspond à 20 sur 20.
À combien de temps?
À 20 sur 20.
Oui, ça correspond à une vision 10 sur 10, si vous voulez.
Donc on...
Oui, parce que les images que moi j'ai vues de la personne qui était aux environs de 500 pixels, elle reconnaissait les gens. Hein.
Ah,
ouais. Donc c'était un visage. Elle décrivait, donc on voyait l'image, ce qu'elle voyait, et elle la décrivait. C'est là qu'on pouvait se rendre compte un petit peu de l'avancée, déjà rien qu'avec 500 pixels. On a vu on avait des choses à 16 pixels. Là, c'était vraiment très bas. Et là, alors, on reconnaît le noir, le blanc, le forme. Mais avec les 500 pixels, ces personnes se retrouvaient à table. On disait, prenez votre verre de bière.
Sans
hésitation.
Moi, je trouvais mon verre de bière, il n'y a pas de problème.
On voit qu'il y a de la pixée. Non, mais là, il y avait la... Par là, vous prenez votre fourchette, votre couteau, etc.
Non,
mais, elle était tout à fait dans les... Et elle reconnaissait... elle décrivait le visage qu'elle voyait, par exemple, et donc elle décrivait un visage flou, à 500 pixels. Hein. Donc à 2000, c'est une vision normale.
Ah, oui, c'est 500 pixels, c'est
les appareils photo.
C'est 20 sur 200, la fois qu'ils disent. J'ai vu ça. Et 2000, c'est 20 sur 20.
Et est-ce que, enfin, je ne sais pas si vous connaissez le processus qu'ils engagent, mais est-ce qu'ils ne pourraient pas travailler? Est-ce que c'est difficile d'apporter la couleur? De diminuer peut-être le nombre de pixels, mais d'apporter la couleur?
Surtout que, par exemple, déjà, je ne saurais pas répondre, franchement, comme j'ai lu beaucoup parce que je voulais voir, j'ai aussi tout à l'heure un petit gamin avec une amoureuse, non, il n'y a pas de vision du tout. Ça, on a cherché.
Je sais que la grosse difficulté de tout ce système, c'est de gérer la chaleur.
Mais ça n'est plus un problème. Maintenant, c'est clinique, hein. Donc, ils n'ont pas encore été faits. Hein. Ils ont l'argent pour faire les essais cliniques.
Attention.
Voilà.
Enfin, c'est encourageant quand même de voir que dans l'avenir, il y a quand même des palliatifs sérieux et valables qui feront que beaucoup de gens n'auront plus une cécité complète.
Oui,
ça c'est quand même énorme.
Oui. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on ne travaille pas du tout. On dit que la rétinite, c'est la disparition des bâtonnets et des...
Oui, oui.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne fait pas de recherche pour pouvoir réinjecter les bâtonnets et remettre des...
Ça, on n'en parle jamais. C'est un peu étonnant. C'était dans la BFP, l'association pour la rétine pigmentaire et dans l'état d'avenant. C'est cette technologie, enfin, c'est cette façon de faire qui a été préconisée. Mais il y avait toujours... Enfin, ça fait 35 ans qu'on entend parler de rétinite que mon diagnostic a été posé. Au début, on disait que c'était les cônes et les bâtonnets étaient sains, mais que c'était les neurotransmetteurs qui ne l'étaient pas. Et puis, quelques années après, on a dit le contraire. Maintenant, on dit encore le contraire. C'est déjà l'élément, me semble-t-il, l'élément primordial qui n'a jamais été... Enfin, pour moi, qui est confus.
Moi, d'extérieur, qui suis pas ophtalmologue, que c'est plus compliqué que dans certains autres organes. Pour savoir pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi la rétine dégénère, ça je ne sais pas répondre. Si vous me demandez ça, pourquoi une pathologie au niveau rénal, le fait d'avoir même anomalie dans le cycle primaire, le rein va évoluer vers l'insuffisance rénale, je sais vous expliquer les mécanismes. On est arrivé à découper, à comprendre la séquence. Ici, on ne sait pas, on n'a même pas une image pour dire, tiens, mais voilà... est-ce qu'il y a moyen d'avoir une imagerie de la rétine avant qu'il y ait la cécité pour voir déjà chez les enfants qui ont un fond d'œil pâle, est-ce qu'il y a un ERG, est-ce que ça donne vraiment une idée complète de la fonction de toutes les cellules de la rétine? Déjà ça, on n'a pas. On n'a déjà pas une bonne imagerie de l'œil. Donc, ça me paraît déjà difficile de comprendre ce qui se passe. Hein. Et donc, si on ne sait déjà pas comment s'emboîtent bien les cellules, comment elles réagissent, quels sont les dialogues qu'elles ont les unes avec les autres, et donc c'est sûr que ça paraît... Alors, je comprends qu'on met tout plein d'argent pour aller faire quelque chose de nano qui est petit, qui est simple et qui est, entre guillemets, bon pour tout le monde, quoi. Hein,
c'est pas idiot comme le coton et
l'obstacle. Oui, voilà, c'est coton et l'obstacle.
Était implanté où en fait la nano?
À l'intérieur.
Donc vraiment au
niveau. À la place de la rétine contre le nerf optique.
Extérieurement ou dans quelque chose?
Rien. La pupille normale, elle bouge, elle ferme, les motricités des yeux, tout à fait normal, rien du tout.
Et alors il y a un port de lunettes donc.
Quand on veut voir.
D'accord. C'est l'extrait si jamais il y a.
Oui. 20 minutes sans... long, sans problème.
Sans dégâts par la suite, disons, ça ne.
Oui, c'est ça que je vais demander aussi. Il n'y a pas de risque de dégâts.
Mais ça, il faut.
Ça, c'est comme. Faire un rejet.
Oui, oui, Maintenant, je ne sais pas dire. Voilà, la phase test pour les autres. Mais ils disent que ça saute aussi facilement, en tout cas, c'est ce qui est marqué dans leurs explications.
Et ça, c'est fait que je suis prêt à dire.
Oui.
Et pourquoi?
Je ne sais pas. Ça doit être suffisant.
Oui. D'accord.
C'est
comme une caméra.
Oui,
une caméra pour voir
quelque
chose.
Oui, mais
vous
pouvez arriver à synchroniser les images.
En fait, il y aura d'autres images différentes.
Sinon, vous allez voir double. Hein. Tout bête. Hein. Je ne sais pas. Mais sinon, vous voyez double.
Vous faites la même chose.
Oui, vous voyez double.
Voilà. Je pense qu'on. Enfin, si vous avez encore d'autres questions, on peut faire le train. Voilà. Un tout grand merci.
Merci beaucoup.
C'est vraiment très agréable de pouvoir comme ça nous voir en petit comité et pouvoir vraiment aller discuter.
Est-ce qu'il y a personne qui a une question qu'il n'a pas pu oser poser?
Non, moi,
j'avais une
question, je vais faire une communication.
Oui. Non, j'ai une question qu'on a vraiment posée. Là, c'est vous, si.
Personne.
Vraiment? C'est important, hein. Il ne faut pas hésiter.
Moi, ouais, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une constatation. C'est que nous, en tant que personnes qui voyons moins, nous ne voyons pas du tout, on a quand même, on doit quand même se protéger un peu par rapport à tout ça, parce que je pense que, enfin, moi, je l'ai vécu personnellement, et parfois, on entend beaucoup de choses, on voit beaucoup de choses, enfin, même si on ne voit pas, on les voit quand même, mais je veux dire, on entend qu'il y a des gens qui gagnent le 2% de dixième, 2%, enfin, peu importe, et finalement, mais d'après ce que j'entends ici, c'est quand même pas demain qu'on va conduire une voiture, ça c'est clair. Non. Et il faut vraiment qu'on se force, parce que inévitablement, quand on entend que on a la possibilité de gagner un petit peu de vue, etc., je pense que notre cerveau, il fonctionne tout seul et il dit ok, ben c'est bien, je vais peut-être pouvoir faire un peu du vélo tout seul, même doucement, etc. On se fait inévitablement des films, et il faut vraiment se protéger par rapport à ça, parce que c'est pas demain que la technologie va. Ça va faire son chemin, c'est sûr. Peut-être un jour, ça arrivera qu'on verra quelque chose. Mais on aura toujours des limites, et de toute façon, il faut qu'on continue à vivre avec notre différence. Et voilà. Mais ça me paraît vraiment important.
Il vaut mieux vivre avec que d'avoir trop l'espoir de voir comme tout le monde qui voit bien.
Tout le monde n'est pas joueur de l'auto, hein, mais tout le monde espère.
Non,
disons
que
moi je
partage
pas la vérité. Donc, il faut rester très prudent et surtout pas. Vous avez raison, rester prudent, ça vite. Je veux dire, ne pas espérer des choses irréalistes. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut que et les médecins restent humbles et soient dans une démarche qui soit aussi utile pour l'ensemble et pour un maximum de patients, et pas toujours qu'un groupe très limité avec une anomalie dans un seul gène. Mais pour ça, on a n'empêche la chance de vivre à une époque où la technologie est vraiment fascinante. Et ça, c'est vrai. Vous m'auriez posé des questions sur les nanomachines il y a un an, j'en avais entendu vaguement parler, mais ça émerge, vous voyez, c'est ça qui est formidable. L'optogénétique, les papiers sont sortis dans Nature, c'est vraiment les meilleures revues de médecine en 2010. Donc, même si c'est lent, franchement, depuis 5 ans ou 6 ans, nous on voit les choses bouger. Avec les connaissances génétiques, avec les nouvelles approches, comprendre pourquoi la rétine dégénère, ça c'est vraiment du vrai travail scientifique. Ça va peut-être prendre 5 ans, mais après, on aura peut-être des informations bien précises.
Vous ne pensez pas que c'est exponentiel ?
Oui. Et la concurrence entre. Vous savez, le problème de nos voyants, ça touche énormément de gens. Et donc, si on peut s'occuper des dégénérescences maculaires, eh bien, c'est beaucoup de gens qui sont en première ligne.
Madame Lejeune, une petite communication. Le 29 septembre, à 18h30, dans le cadre du FIF, au cinéma d'Eldorado, sera donné le film que Benjamin Daoust a tourné avec 5 handicapés visuels. Et le titre du film, c'est « La nuit qu'on suppose ». Donc c'est tout un travail sur la compréhension de l'image, de ce que nous avons comme image, et comment on peut percevoir ce que les personnes handicapées visuelles peuvent vivre avec les images. C'est un très beau film pour tout ce que j'ai entendu comme écho.
Quand vous êtes dans le FIF, en fait, le 30 septembre, il y a la version mieux décrite d'un film qui est Les Supporters.
Les Supporters.
Voilà, oui, c'est ça. C'est aussi à 18h30 à la Maison de la Culture.
À quelle heure on vient ?
18h30. Et puis après, on va commémorer un coup avec la ministre. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci. Et à bientôt.